Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Carole. Docteur en sciences du langage, c'est une enquêtrice née. Si tu veux savoir comment, ça commence maintenant.
Mais commençons par le commencement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, dont moi qui ne t'ai jamais vu. Tu t'es invité, tu t'es installé, tu as dit bon, on enregistre. J'ai dit ok, d'accord, oui madame. Je ne suis pas très contrarié en fait, il faudra que je travaille ça. Non, plus sérieusement, Carole, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te redécouvriraient?
Alors, qui je suis? Eh bien, je suis une personne qui vit à la montagne, comme on vient de le souligner, parmi les marmottes. Mais je ne suis pas née ici, je suis née plutôt au niveau de la mer. Je suis née au Mans, là où on voit des voitures à certaines époques de l'année qui vont très très vite et qui sont fort jolies. Et je suis, allez, docteur en sciences du langage. Je le dis non pas parce que j'adore mon doctorat, même si c'était très chouette à faire. Je lis souvent des retours d'expérience un peu tristes sur le doctorat. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est très formateur et j'en garde de très bons souvenirs. Donc, voilà, à signaler. Je suis docteur en sciences du langage. Je suis spécialiste de grammaire, de tout ce que les gens n'aiment pas en général, mais que moi, j'aime beaucoup. Et pour un peu corser le tout, je voulais absolument travailler sur des vraies données, c'est-à-dire des vrais gens qui parlent soit à d'autres gens, tout aussi vrais, soit à des machines. Donc, j'ai fait ma thèse dans un laboratoire d'informatique. Et c'est comme ça que je suis tombée en quelque sorte dans la potion magique de ces outils ou dans la marmite des outils et que je me suis formée et mise à travailler, si j'ose dire, autour de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais dans ces versants dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui ne sont pas récents, c'est-à-dire NLP, reconnaissance de la parole, chatbot, traduction, reconnaissance du locuteur. Bref, qu'est-ce qu'on fait avec des mots et des outils d'IA? Et sinon, je fais de la rando, puisque je vis en montagne, évidemment. Et que dire de plus? Je donne des cours, je travaille autour des outils, je lis beaucoup et assez vite, paraît-il, donc c'est très pratique.
Ok, est-ce que tout ça sera dans l'examen de fin de session ou pas, madame?
Bon, évidemment. Et les détails, hein, n'oubliez pas les détails.
Très important les détails. Écoute, c'est une très belle entrée en matière. Mais commençons par le commencement. Tu sais, tu as dit que tu étais tombé dans le chaudron magique.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé à 2 ans? Tu as vu le film Terminator avec Skynet. Tu t'es dit, c'est bizarre. Il a un trouble du langage. Je vais devenir doctorante là-dedans. Comment c'est arrivé? C'est l'influence de papa-maman? C'est une rencontre? Ça t'est tombé dessus? J'ai dit au Mans. Parce que c'est, disons que c'est génial comme métier, mais c'est peu courant.
Tout à fait. Et il paraît que c'est encore moins courant quand on est une femme. Alors, pour le coup, ça devient compliqué. Alors, il y a des choses que je peux expliquer, des chemins que j'ai empruntés, et je sais que ce n'est pas eux qui m'ont emmené vers ça. Mais savoir exactement pourquoi, c'est compliqué. Il faudrait une analyse, 10 ans, un canapé. Voilà, ton accueil est formidable, mais il faudrait un canapé en plus et une psychanalyse.
On repartira à une autre émission, à un autre show, avec,
Voilà.
le canapé de Carole. Alors, épisode 1, bonjour.
Génial.
Bientôt sur Netflix.
Avec une voix très très lente de psychothérapeute, tu sais, un
Ah
truc
oui.
un peu chouette, cosy. Bon, toujours est-il que non, pas du tout. J'ai même pas de formation scientifique pour le bac, puisque je suis une indécrottable littéraire avec des parents qui sont pas du tout dans l'enseignement supérieur et une maman qui aime beaucoup lire et un papa qui aime beaucoup les chevaux de course. Donc, a priori, pas d'intelligence artificielle de ce côté-là
Ouais.
et des études qui ont été chouette à faire, chouette à vivre, mais très classique au sens littéral et premier du terme, c'est-à-dire que j'ai fait une licence de lettres classiques, entre autres, et que j'ai traduit, fait des versions et des thèmes de latin et de grec, et que j'adorais Tacite, par exemple. Donc, fatalement, on est assez loin d'un script en Python. Je suis
Oui.
complètement d'accord. Toutefois, et c'est là qu'il y a un truc, c'est que j'ai sans doute un esprit un peu Hercule Poirot et que j'aime bien les enquêtes. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé faire du latin et du grec, du latin surtout, et puis que j'ai adoré m'intéresser à la grammaire parce que c'est une façon de décortiquer le langage, mais aussi le monde qui nous entoure par les mots qu'on utilise. Et puis, à force de mener l'enquête, Ça m'a amené vers des moyens d'enquête et des voies d'enquête plus modernes, plus 2.0, certains diront digital, et donc de l'IA. Et je crois que c'est ça le fil conducteur, c'est avoir cette volonté de pouvoir prendre des photos à des instants T, regarder les détails. Ce qui est bien avec les machines, et je le disais hier, c'est que c'est pas magique, mais que ça permet de lire beaucoup plus vite et beaucoup plus que nous, et donc éventuellement de nous surprendre sur certains de nos usages, d'aller capturer des choses que à cause de nos biais ou par manque de temps, on n'arriverait pas à capturer. Et donc ça permet l'enquête, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est joliment amené. Moi, au début, quand tu m'as parlé de, bah écoute, j'ai commencé par du littéraire, j'allais te dire, mais personne t'a parlé de chômage à l'époque, ou personne t'a dit, bah écoute, c'est winner, ma fille, mais bon, tu veux pas faire un truc qui a, tu sais, un vrai métier, j'ai fait des guillemets exprès.
Ouais, non, mais t'as raison. Mais j'ai des parents de ce point de vue qui sont absolument géniaux et qui n'avaient pas d'attente superfétatoire me concernant, si ce n'est deux choses. D'une part, essaye de gagner ta vie. J'ai un papa employé de banque et un grand-père percepteur. Donc
Ok.
voilà, que l'administration fiscale et le reste, ça me connaît, c'est pas un truc qui me. Voilà. Donc il y a quand même deux, trois nécessités de amour et eau fraîche, c'est cool, mais quand même, tu risques de trouver ça un peu dur. Et on ne t'aidera pas plus que ce que l'on peut et ce qu'il devient admissible de faire. Donc par exemple, j'ai bossé en tant qu'étudiante dans des librairies, j'ai fait des tas de choses. Donc vraiment, il y avait ce côté, oui, ça serait bien que tu aies un job qui te finance quand même, ma cocotte. Mais en revanche, fais ce que tu veux et quand tu le fais, fais-le bien. C'est ça l'injonction parentale. C'est pas ni un domaine, ni un niveau d'études, ni une voie particulière. C'est vraiment ce que tu choisis, fais-le à fond et fais-le bien. Comme ça, au moins, t'auras pas de regrets. Et essaye quand même de trouver des choses qui te stimulent, qui te répondent, qui te font avancer. Donc ça, c'est cool. Parce que je n'ai pas eu d'obligation de choisir une voie et donc j'ai fureté. Évidemment, avec ce côté, t'es sûr des études littéraires, mais quelle bonne idée, que vas-tu faire? Sachant qu'en plus, j'avais tendance à dire, moi, prof, jamais. Donc, fatalement, quand tu remets ça dans un contexte qui était celui des années 2000, 2000-2010, en gros, tu te dis, oui, alors on n'est pas sorti des ronces, hein, voilà. Et j'ai eu un futur directeur de thèse qui avait des côtés paternalistes. Qui m'a dit passe ton CAPES d'abord.
C'est quoi
Pour
le
le coup, mon
capes?
père m'a jamais dit passe ton bac d'abord, mais mon di directeur de thèse m'a dit passe ton CAPES d'abord. Donc fatalement, j'ai fini par le passer. C'était chouette. Petit spoiler alert qui vont faire que tous les profs du monde vont me détester. J'ai adoré enseigner, je le fais encore. Parce que j'ai eu des sixièmes, enfin j'ai eu des collégiens, j'ai enseigné avec un CAPES de lettres modernes. Je fais partie de ces rares personnes qui ont démissionné de l'éducation nationale, mais je l'ai intégré. Et j'ai adoré enseigner, j'ai détesté la salle des profs. Voilà.
Oui.
Si tu veux le pourquoi du comment.
Pour les
Et...
personnes qui ne savent pas, je précise juste, le CAPES, merci
Ah
Google,
oui,
c'est le
pardon.
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
C'est cela même. Donc vous avez le droit, une
Ouais.
fois que vous êtes CAPES dans une matière, d'aller embêter des collégiens et des lycéens. Voilà.
Ok. C'est joliment dit, embêté, c'est ouais. Donc c'est cool. Mais quid de ta rencontre avec la technologie? Parce que après, je reviendrai sur l'enquêtrice et le fun que tu en retires. Mais quid de la rencontre avec la technologie? Comment ça t'a...
Alors, en dehors du phénomène Matrix qu'on a tous en tête avec un écran de terminal,
Oui.
avec un écran noir, avec une encre verte fluo phosphorescente la nuit, qui fait qu'à peu près tous les informaticiens devraient finir leur vie aveugle. Alors, spoiler alerte bis pour ceux qui ne font pas d'infos, il est possible sur ces écrans moches que vous voyez de changer et la police de caractère et la couleur du fond d'écran et la couleur de la police de caractère. Donc on n'est pas obligé de se ruiner la vue sous prétexte de passer des commandes bizarres et fort intrigantes. Donc moi, par exemple, je travaille parfois avec des terminaux qui ont des jolies couleurs et qui ne me flinguent pas les yeux. Donc tout va bien, on peut le faire. Mais voilà, une de mes premières rencontres avec les informaticiens du labo, ça a été ça. Ça a été, ben non, je ne travaille pas sur une machine de manière classique, je le fais via terminal. Donc je te montre des scripts, donc je te montre des lignes de commande, j'interagis d'une certaine façon avec ma machine. Mais aussi avec les serveurs qui sont dans la salle d'à côté qui font un bruit à vous rendre sourd là aussi, spontanément d'une certaine façon. Et donc je me suis dit, mince, encore un langage crypté, ça me cause, il faut que j'aille voir. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré tout ce qui est outils de sous-titrage, par exemple, puisque c'est ça que je faisais au labo, avec mes collègues, par ce biais-là, d'à la fois quelque chose de très langagier, parce que tu passes des lignes de commande et ça fait quelque chose, tu donnes des ordres et ça revient, et à la fois de très physique, puisque mon bureau au labo était pas très loin de la salle de serveur, qui, quand la porte est ouverte, fait un espèce de ronronnement de moteur d'avion la journée entière, qui peut être désagréable.
J'allais utiliser le terme antithèse, mais ça fait professoral et comme tu l'as dit, moi je n'ai pas passé mon CAPES, donc je ne m'autoriserai pas ça. Je trouve ton chemin extrêmement intéressant, pour pas dire très inspirant, parce que c'est en dehors de tout cliché. Tu sais, c'est vraiment pour toi une suite logique, puis tu es allé chercher un élément complémentaire. Tu sais, c'est l'antithèse de la geekette ou de la personne qui aimait la technologie puis qui l'a utilisée. Donc, je vais venir sur ce qui m'intéressait. Donc, en fait, tu es une enquêtrice.
Tout à fait. Oui,
Qu'est-ce
par
que tu...
exemple, j'ai jamais, pardon, j'ai
Oui.
jamais démonté une machine. Alors, je l'ai vu faire pour la
Oui.
petite histoire. Comme à peu près tous les thésards en fin de thèse, ma vénérable machine que donc j'avais depuis plus de 3 ans, puisqu'une thèse c'est à peu près 3 ans, normalement ça doit être 3 ans, mais on a parfois quelques extensions de garantie. Et c'était mon cas puisque j'étais prof parallèlement, donc j'avais eu le droit d'être un peu plus lente dans la réalisation de mes travaux. Et cette brave machine, au bout de presque 3 ans, c'est-à-dire quelques semaines avant de soutenir, alors qu'elle t'a vu faire des expériences, écrire, etc., que tu as vécu avec elle beaucoup, décide de lâcher, parce que c'est tellement plus drôle avec toutes tes données dans le disque dur. Et fort heureusement pour moi, c'était un petit problème, mais qui nécessitait tout de même le démontage de la machine parce qu'il fallait changer une pièce. Et donc, fort gentiment, le technicien vient dans mon bureau, se met sur le bureau qui était à côté de moi, déploie un tapis statique de façon à ne pas perdre les petites vis de ma machine. Vous verrez assez vite de quel type de machine je parle. Et tient à un moment donné mon disque dur dans les mains et me dit: C'est là-dedans qu'est votre travail, madame? Et il paraît que j'ai blanchi assez longtemps. En mode, vas-y, le fais pas tomber, j'ai des sauvegardes, mais je suis pas sûre qu'elles soient hyper faites d'hier soir, les sauvegardes, tu vois. Et j'ai pas du tout envie de recommencer certains éléments. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une dimension très très physique. Et aujourd'hui, on parle du cloud, on parle de sauvegarde, on parle de données, de
Oui.
bulles Internet, de ceci et de cela. Je conseille à tout le monde de vivre cette expérience purement physique. Pour se rendre compte que le cloud, oui, mais non. Il y a forcément quelque part un serveur qui ronronne et qui, sous le coup d'un orage ou sur le coup d'une inondation, par exemple, va nettement moins bien fonctionner. Donc il faut quand même se souvenir de ça. Ça permet, par exemple, dans les projets, d'avoir une très très bonne hygiène avec des sauvegardes,
Oui.
des endroits où tu travailles, des endroits où tu déposes des choses. Enfin, tu vois, c'est. Il y a aussi quelque chose de très organisationnel dans tout ça, il ne faut pas l'oublier.
Oui, je souris jusqu'aux oreilles, parce que ça, c'est la fameuse règle des 3 S, sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Et oui, c'est limite un cas classique du ça tombe en panne là, ça tombe en panne la veille. Puis tu fais une
Une espèce de loi de
sauvegarde.
Murphy, de
C'est
truc,
ça,
je ne sais
toi.
pas
La
pourquoi.
fameuse, as-tu fait une sauvegarde?
Ah mince.
Oui, je crois, je sais pas où elle est. Et le pire, c'est quand effectivement tu dépends du cloud. Puis que là, il y a des crashs, il y a des erreurs de connexion, il y a de la corruption. Puis là, tu n'as pas cet aspect physique. Puis oui, il est dans le nuage.
Vraiment dans le nuage.
C'est ça, dans le nuage. Donc là, tu peux, croyant ou pas, tu peux aller brûler un ou deux cierges
Oui, ça
à ce stade-là. Il n'y a que ça qui peut aider. Ah, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu as déjà été tenté de bifurquer à un moment dans ce parcours-là ou tu as toujours été persuadé que c'était ça et pas autre chose?
Alors, j'essaye d'une part de pas me dire ça y est, je suis au point où je voulais arriver.
Ok.
Parce que quelque part, je serais déjà. Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'assez laid à se dire. Je finirais par me dire le meilleur est derrière moi, mais quand même, je suis vieille d'un point de vue outils et IA et modèles de langage pour la plupart des gens, puisque j'ai 43 ans, mais quand même, je n'ai pas un pied dans la tombe, hein, tout va bien. Donc, on va se détendre et on va se dire qu'il reste de belles choses à accomplir, y compris professionnellement. Et je le vis plutôt par rapport à un historique, c'est-à-dire que ce fil conducteur, j'y tiens vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu des parcours différents, puisque entre mes études, le moment où je rentre au labo, le moment où, après ma thèse, parce qu'un jour j'ai soutenu Suspense insoutenable pour nos auditeurs, oui, je l'ai eu, un 21 septembre, il faisait très beau, et je peux vous assurer que c'est une très belle journée, parce que s'il y a des doctorants qui nous écoutent, vraiment le jour de la soutenance, vous avez une espèce, à la fin des 45 minutes de présentation, puisque c'est ça en France, vous présentez vos travaux pendant 45 minutes, et puis après il y a les questions du jury, mais avant les questions du jury et après votre présentation, vous avez une espèce de ça y est, c'est fait en lettres de feu qui apparaît au fond de la salle, réellement. On me l'avait dit, mais c'est vrai, tu le vois le truc. Tu fais ça y est, c'est fait, job done. Et donc, entre ce moment-là et le moment où je décide et où fort gentiment, j'allais dire, mais j'ose espérer qu'on s'est tous aidés, je reste au labo comme ingénieur de recherche, puis après, je pars dans des startups. Puis après, je décide de suivre mon compagnon et de monter ma boîte. J'ose espérer qu'à chaque fois, il y a eu ce fil conducteur qui m'a fait dire, thématiquement, tu es dans des choses que tu sais faire, tu en as abandonné certaines pour mieux en retrouver d'autres, t'ajoutes de nouvelles compétences, tu rencontres de nouvelles personnes, ça change un peu la donne. Mais il y a quand même cette envie, cette thématique, sans trop de projection, mais en regardant ce qu'on a déjà fait.
T'as toujours été aussi cartésienne?
Ouais. Oui, là, pour le coup, tu peux demander à ma mère. Il paraît que dès 3 ans, j'avais ce côté.
Alors, bouge pas, je vais demander ça tout de suite. Mais comment t'as son numéro? J'ai dit, pose pas de questions, quoi. Ça, un jour, il faudra que j'arrive à piéger
Oui,
quelqu'un
ça.
littéralement là.
Et
Bonjour,
tu sais que
bonjour,
je
ma
l'ai
fille.
fait en cours. Alors, ça,
Pour vrai?
petite parenthèse qui peut
Oui.
peut-être te faire rire. J'ai été prof, donc, avec des sixièmes que j'aimais beaucoup, entre autres. Mais j'ai eu plein de classes. Mais je me souviens notamment d'une sixième où j'avais un môme. Fort intelligent, mais justement intelligent à ce point que je pense que parfois, malgré mes efforts, il s'ennuyait et s'amusait donc à jouer un peu les troublions. Mais ça pouvait lui porter préjudice et puis porter préjudice à ses camarades, donc il fallait faire quelque chose. Et puis cet élève avait un papa qui n'était pas présent la semaine parce que le papa était routier. Et la maman m'avait dit, c'est parfois un peu difficile parce qu'il a du mal avec une semaine qui est très cadrée avec nous dans un univers féminin. Et puis le week-end, il y a papa, on n'est pas dans les mêmes eaux. C'était des locuteurs non natifs du français. Donc il y avait aussi ce rapport à la langue maternelle et à la langue seconde qui était compliqué pour mon élève. Et la maman m'avait dit, il faudrait aussi discuter avec le papa pour qu'on soit tous les trois vraiment. Et un après-midi, j'avais dit à la maman, bah, ok, donnez-moi le numéro de téléphone. Du papa, je verrai ce que je peux faire. Et puis un après-midi où l'élève en question devient pénible, et puis je suis sa prof principale. Vraiment, il n'a pas de bol. Je suis sa prof de français, sa prof principale, et donc mes collègues m'ont dit, ah, il devient pénible. Alors, je ne citerai pas son prénom, mais il devient pénible. Il y a des choses qui se sont passées cette semaine. Il manque un peu de respect à X. Là, il fait pas gaffe. Là, il prend la parole intempestivement, etc. Faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc cet après-midi-là, je prends mon téléphone avec moi, ce que je ne fais jamais en cours. À un moment donné, j'interpelle l'élève et je dis, écoute, il va falloir que ça se règle avec papa, t'es prévenu. Il y a un moment donné où il faudra le faire. Puis il fait le malin, je suis ok, d'accord, on l'appelle. Et je l'appelle en cours. C'est la seule fois de ma vie où j'ai appelé un parent d'élève pendant ma salle de classe et je lui ai passé son fils. On a été dans une autre dynamique ensuite. Et mes autres élèves m'ont regardé en disant, elle va le faire. Ouais, elle le fait. Là, honnêtement, là, elle le fait. Elle est un peu énervée, elle va le faire. Et voilà, elle l'a fait. Donc,
Bah, écoute.
je ne serais pas surprise que tu appelles maman.
Oui, bah, écoute, j'en prends bonne note. Avoir su l'anecdote, j'aurais organisé quelque chose, mais maintenant, on sait toutes et tous si tu sors. ton cellulaire à un moment ou à un autre, silence.
Ouais, voilà,
silence,
faut faire
focus,
gaffe.
C'est ça, c'est ça. Non, si Carole sort son sel, focus, ta gueule.
Méfiez-vous.
C'est ça, méfiez-vous. Ça va finir sur une plaquette ou un t-shirt.
Oui, il faut. Et je donne encore des cours alors à des beaucoup plus grands. Je pense que tu viens de faire flipper 2-3 formations d'étudiants que je peux avoir. Oui, ils vont se dire mince, faut qu'on fasse gaffe.
Écoute, ça me fait toujours plaisir de servir à la prévention. Comme on dit, ce qui est le fun avec les règles d'engagement, c'est qu'elles sont toujours annoncées et écrites. Après, voilà.
Comme on dit,
bim le train, quoi. Quoi? Comme je l'ai dit, moi j'ai voulu t'inviter, mais je crois que là tout le monde a compris pourquoi je voulais t'inviter, au moins depuis le tout début, parce que c'est... Parce que tu rentres dans la catégorie des personnes uniques, et puis... Et la question qui est toute bête, avec ton attachement pour l'aspect enquêtrice, d'enquête, de résolution de problèmes, pourquoi t'es pas directement allé dans la police ou dans... Je veux dire, ouais, je pensais à la criminologie, mais en connaissant un peu, c'est pas vraiment ce que tu fais.
Non, mais c'est amusant parce que j'ai souvenir d'un projet où j'ai travaillé avec des gendarmes enquêteurs. Et c'était vraiment très chouette. Et ils m'avaient posé la question. Et la réponse que j'avais fournie à l'époque, qui à la limite serait moins vraie aujourd'hui, c'est que je me suis toujours vue comme quelqu'un d'assez peu sportif. Et je dis que c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vous avale des dénivelés qui sont. Et il paraît que je monte comme un cabri, donc concrètement.
C'est ce que j'allais dire pour quelqu'un qui fait de la rando en montagne.
Ouais, mais je le savais pas si tu veux. Je suis née au Mans, j'adore nager. Alors je suis née au Mans, donc vous imaginez niveau de la mer. Hein, les Alpes Mancelles, c'est un truc qui fait rire tout le monde là-bas parce qu'en gros tu vois le panneau qui te l'indique dans un sens et puis à un moment donné tu vois le panneau qui te l'indique dans l'autre sens et t'as pas eu l'impression d'avoir changé quoi que ce soit. À ta vitesse, donc tu ne vois pas bien. Alors qu'ici, bon, tu as des trucs, on n'a pas besoin de te dire que la pente est à 30%, parce que dans la mesure où tu es capable de toucher avec ton coude le sol, alors que tu montes, c'est que tu te dis bien qu'il y a un truc. Faut pas, voilà.
Oui.
Et en gros, je suis venue ici pour suivre monsieur. Des fois, l'amour vous fait faire des trucs quand même. Et voilà, j'ai testé. Il se trouve que c'est fun et que j'y arrive bien et que je marche vite. Mais j'ai jamais eu le sentiment avant ici que vraiment c'était quelque chose de très à ma portée, même si j'avais déjà le sentiment que c'était une activité physique. Et en le faisant, je me rends compte que ça passe facilement, donc fatalement, effectivement, je tiens le rythme. Mais à l'époque où il aurait été question de se dire tiens, plutôt que de faire des lettres classiques ou plutôt que de faire une thèse, essaye les concours d'entrée dans telle ou telle division, je me suis dit oui, mais toute la partie sport... Même pas la partie armes ou manipulation des armes, hein, mais vraiment la partie sport ou bivouac. Je l'avoue sans peine, j'ai un côté chochotte. Si tu veux, je fais de la rando, mais je bivouac pas. Ma salle de bain après une rando me paraît être un endroit paradisiaque. Donc, je suis pas la nana que tu vas emmener 4 jours en refuge sans salle de bain, tu vois.
Ouais. Bah, au moins, c'est bien d'en être conscient plutôt que se lancer dans quelqu'un est conscient ou conscient, lancer dans un truc puis abandonner ou revenir. Sans transition aucune, est-ce que tu as un attachement à la langue française en particulier ou pas plus que ça?
En particulier, forcément, parce que la parlant beaucoup, comme vous pouvez vous en rendre compte, lisant beaucoup et ayant eu une maman, comme je le disais, qui lisait beaucoup, j'ai forcément un espèce de foisonnement de cette langue-là. C'est ma langue maternelle et même si j'en parle d'autres plus ou moins bien, j'ai une aisance en français qui fait qu'elle me questionne. Parce que plus rapidement que dans d'autres langues, je me dis, tiens, ça, c'est pas tout à fait synonyme. Ça, alors que tu vois, dans d'autres langues, comme l'anglais ou l'italien ou l'allemand, quand tu veux, je vis à côté de l'Italie, hein, pour l'italien, et donc régulièrement, je vais par exemple manger ou visiter des musées en Italie, et concrètement, j'obtiens à peu près ce que je veux, mais on sent bien que je suis pas fluente. Je n'irai pas jusqu'à un délire de précision avec des autochtones. À Venise, quand j'arrive à demander mon chemin, je suis hyper fière de moi. Enfin, voilà. Donc, ce côté limité dans la pratique fait que, effectivement, j'ai un attachement au français parce que j'en vois les différentes facettes et que ça m'est facile. Après, je suis la première à dire que j'aime pas dire que le français est plus ou moins cela. Alors, je le dis de manière objective sur, enfin, j'espère objective. Sur des éléments de grammaire, je vais par exemple t'expliquer que le français est une langue qui est très fondée sur le contexte, sur la morphosyntaxe, là où l'anglais est une langue très lexicale. On a plusieurs mots et on identifie les mots dans des, enfin, des contextes des mots par le mot lui-même et pas par ce qui voisine. Voilà, mais oui, j'ai un attachement à la langue française. J'ose espérer que c'est pas aussi aveuglément qu'on pourrait le croire pour une langue maternelle, quoi. C'est pas parce que c'est ma langue maternelle que je m'y intéresse autant.
Ben, grand merci pour ce partage. Vous pouvez retrouver sa présentation et son atelier en lien dans la description et dans les commentaires. Non, je te posais la question parce que dans pas mal de régions dans le monde, dont le Canada français et puis le Québec, il y a cette lutte justement de langue minoritaire, puis d'essayer, tu sais, de la faire survivre. Mais souvent, j'ai cette discussion ou ce débat interne avec d'autres personnes en disant qu'on est arrivé à une époque de maturité ou de globalisation où bien souvent, comme tu disais, bah, tu sais, ton élève, bah, la langue française n'est pas sa langue première, mais souvent, on se retrouve avec des gens, souvent des plus jeunes, qui parlent 3, 4, 5 langues. Mais en fin de compte, ils parlent 3, 4, 5 langues. Tu sais, la maîtrise fluente ou la maîtrise parfaite, ben en fait, ils ne l'ont pas vraiment, ou ils sont en train de se créer, j'aime pas le terme 9 langues, mais ils sont en train de se créer une nouvelle langue un peu populaire, où selon ce qu'ils veulent dire, ils vont utiliser telle formulation, tel élément, puis ils arrivent à se comprendre entre eux. Qu'est-ce que tu penses de cet état de fait, mais de ce postulat-là?
De toute façon, la langue évolue. Je ne fais pas partie des linguistes qui ont un positionnement hyper normatif. Qu'est-ce que je veux dire par normatif? C'est comme ça que c'est marqué dans le Becherel, ou c'est comme ça que c'est marqué, ou c'est comme ça qu'on le vit depuis 10 ans, donc c'est comme ça qu'il faut le dire. Il y a évidemment des choses qui font saigner mes oreilles, du type palier A. Généralement, je te regarde avec un œil torve si tu dis palier A. Il y a un truc qui me crête, c'est pas ça qu'on dit. Voilà. Mais typiquement, moi qui travaille avec des outils d'IA, dans les corpus d'apprentissage, on voit davantage palier au manque que palier le manque. Et donc, fatalement, par un effet d'apprentissage statistique, le système, y compris dans la génération, parlons de ces LMM, va générer un palier haut, parce que c'est ce qui est le plus usité, et donc, a priori, le plus stable à un instant T d'usage. Donc, je le sais, et je vis avec, et ça m'amuse de remarquer certaines choses. Il y a certains trucs que je trouve moches, mais j'ose espérer que je suis capable de ce pas de côté en me disant « Toi, tu le trouves moche, mais fais pas ta vieille conne, c'est ce qu'on utilise. » De là, l'utiliser moi-même, oui et non, je sais pas, peut-être à force. Mais il y a certaines choses sur lesquelles je suis une irréductible gauloise et sur lesquelles, non, je continue à dire pallier le manque, et mince. Sur les usages du subjonctif, je dois être un petit peu plus lâche. Je dois faire des choses qui ne sont pas toujours grammaticalement correctes. Mais c'est aussi ça mon boulot et c'est ce qui m'amuse. J'aime beaucoup travailler avec des modèles de langage, cette fois-ci pas génératifs, mais où je m'en sers comme analyse pour, par exemple, comparer du français d'époques différentes, de locuteurs différents, voir le degré de pénétration, c'est pas très joli de le dire comme ça, d'un mot dans une langue, et tout ce que tu disais autour de la nouvelle langue ou de différentes langues avec un S tout en ayant le même bain commun, et bien on peut essayer de le mesurer, c'est amusant de voir que Covid a laissé certains usages dans nos vies, qu'aujourd'hui, quand tu dis un cluster, les gens pensent à Covid et ne pensent pas à un cluster de locuteurs, c'est-à-dire un regroupement de locuteurs pour savoir qui sont ces gens, etc., etc. Donc, c'est ça qui est amusant aussi à voir évoluer. C'est que c'est une façon d'évoluer. Ce que je peux te dire de ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Je parle souvent... Je m'explique quand je dis vite. Je parle souvent de date de péremption des corpus. Pourquoi? Parce que quand tu as un corpus, l'essentiel quand tu fais des outils d'IA, c'est que ça serve à quelqu'un. Sinon,
Oui.
il y a des très beaucoup de marketing, d'OpenAI et autres
Oui.
qui ont été faits, c'est parfait. Mais j'aime bien, moi, quand je fais des outils à plus petite échelle, me dire qu'il y a au bout de la chaîne un utilisateur à qui ça simplifiera l'existence à un moment donné de sa vie, et c'est pour ça qu'on le fait. Et d'un coup, comme on veut lui simplifier la vie, ce brave individu, on essaye de faire en sorte de prendre en compte le cas d'usage, ses usages langagiers à lui, et donc de mettre dans le système des données d'apprentissage qui sont en lien avec cet usage futur, ou ce qu'on en pense du moins, on essaye. Et on voit que quand on met des vieilles données qui ont plus de 10 ans dans un système, je parle du texte, hein, du
Oui,
texte ou des mots, mais pas d'image, du texte et des mots, même si à mon avis avec l'image, les spécialistes diraient un peu la même chose que moi, mais pour des mots, tu vois que si tu mets un vieux corpus issu de journaux il y a 30 ans, ton système de sous-titrage pour aujourd'hui et maintenant, il sera mauvais. Parce qu'on a changé nos usages, on a changé la façon de dire les choses, la grammaire, le nombre de mots dans une phrase, ce qu'on utilise comme substantif, ce qu'on va faire. Et donc, fatalement, le système, il n'est pas en phase avec ce pourquoi on l'utilise, donc ça marche moins bien. Ce qui fait que je parle souvent de date de péremption des corpus. Prenez pas des données qui ont 50 ans si vous voulez faire un truc sur une population ici et maintenant, sinon ça va moins bien marcher.
j'allais dire c'est évident, mais quasiment personne le fait.
Ouais, alors si tu veux, il y a un biais en ce moment, si j'ose dire, qui est sans doute renforcé par les mêmes. C'est plus on met de data dans le machin, mieux ça marche.
Oui.
Oui, bah alors ça court, hein, parce que des fois non.
Oui, bon,
Il y a aussi
ça.
quelques tendances aujourd'hui, si tu lis, et les articles de presse spécialisés, et à la limite même des articles de presse génériques, puisque ça commence à toute cette fièvre autour de ChatGPT et des, je pourrais dire GPT d'ailleurs, et des LLM fait qu'on parle des modèles de langage large ou massif, lisais-je récemment, et que tout le monde est en train de dire oui, mais alors des fois tellement massif que ça dilue, peut-être qu'il faudrait mettre des plus petits pour, tu vois, réorienter le modèle et faire en sorte de. Alors on peut prompter pour cadrer le truc. Mais ça devient très stéréotypé. Au-delà du prompt, essayons de réfléchir à des modèles de langage plus ciblés, plus en adéquation avec l'usage auquel on pense, de façon à être plus efficace. Donc, tu as presque une idée de Matryoshka où tu vas mettre une petite poupée cœur de cible dans la plus grande poupée pour pouvoir être fonctionnel sur tes envies et tes besoins à toi.
Bon, on a un deal. J'ai une section qui s'appelle l'instant passion, parce que la passion, c'est le fun. Puis t'es plus que passionné, là. Il n'y a même pas besoin de... Bref, vous regardez dans Larousse, passion, il y a Carole juste à côté. Comment on fait pour te joindre?
Alors, soit on va sur mon site qu'il faut absolument que je refasse et je le dis parce que comme ça me met un gentil coup de pied pour que je m'exécute et que je le refasse pour qu'il soit joli pour vous accueillir. Soit plus simplement, on tape mon nom sur LinkedIn et on a facilement accès à mes coordonnées et en général, il paraît que je suis hyper réactive sur mes messages, donc je réponds assez vite.
Je confirme, et puis suivez-la sur LinkedIn, parce que elle est extrêmement pertinente sur ce qu'elle nous
Gentil.
partage. Et non, puis tu as une façon d'amener ta spécialité de façon fort ludique.
C'est gentil. Parce
Et non,
que vraiment,
c'est...
j'essaye de me faire une prog de
Oui.
publication. Je le disais encore hier. Alors, pour ceux qui en douteraient, oui, c'est moi qui l'écris. Et non, je n'ai pas 125 000 postes d'écrits qui me prennent 4 journées de boulot parce que vous imaginez bien que c'est pas ça qui me fait gagner ma vie. Donc il faut quand même être un petit peu efficace dans cette histoire. Et généralement, je les écris juste avant de les publier ou la veille à des moments. J'aime bien écrire dans le train, par exemple. Mais voilà, c'est pas toujours évident parce que je fais pas toujours de call to action. Je mets pas toujours ma trombine en photo et mes hashtags sont pas toujours ceux qu'il faudrait. Mais c'est conscient. Autant quand j'écris pour d'autres, je fais attention, autant quand c'est pour moi, je m'amuse. Et donc, voilà,
Oui,
je m'amuse sur des thématiques, que ce soit le scribe, qui est le nom de ma boîte, ou la linguiste, qui fait référence à mes premiers amours, cette vision, soit grammaire, soit outil d'IA, et volontaire, et c'est un temps d'amusement pour moi. Donc voilà, ça me fait plaisir que tu apprécies.
Ah bah écoute, c'est comme on dit, c'est amplement mérité et tout est vrai là-dedans. Rappelle-toi qu'on s'est connus grâce à un commentaire, un de mes commentaires. Bref,
C'est vrai.
c'est ça, et j'allais dire un trait d'esprit. C'est messieurs qui se demandent ce que c'est, aller regarder sur YouTube. Non, je plaisante évidemment. Tout est
Ah
dans.
non, sur TikTok,
C'est
ça
ça.
marchera encore mieux.
Donc, oui. Ah, arrête. En fait, je dis arrête, mais en même temps, j'adore TikTok. Je suis fasciné par ça. Je trouve ça génial. Je suis fasciné par toute nouvelle technologie, tout nouveau buzz, au-delà par la façade, que tout ce qui se passe derrière et comment ça a été pensé. Puis, de toute façon, un média en chasse l'autre, sans
Tout à fait.
forcément réinventer. Vous allez trouver tous ces contacts évidemment dans la description. Donc, foncez. Ça fait un moment qu'on discute. Tu as quand même une certaine expérience des entretiens, des échanges. Quelle est la question qu'on t'a jamais posée, mais auquel tu aurais voulu répondre?
Ah, chouette. On m'a posé des questions auxquelles je n'ai pas voulu répondre. J'ai un souvenir de mon directeur de thèse que j'aurais voulu, comment dire, trépaner.
Oui.
Non. Où tout le monde l'a regardé en mode mais pourquoi? Et ce qui fait que je me suis pas démontée, je lui ai répondu puisque je fais une thèse. Je vous la parenthèse et que je suis très rapide et je réponds, mais ça me donne
Prends ton temps, prends ton temps.
la. J'ai fait une thèse sur la façon dont on pose des questions. Or, dans les questions canoniques, il y a qui, où, pourquoi, quand, avec qui. Enfin voilà, il y a des choses, il y a des pronoms interrogatifs qui servent à ça. Et mon directeur de thèse m'a dit, si tu devais refaire une thèse, ça serait avec qui, où et pourquoi. Et spontanément, mais vraiment, ma mère a eu honte, elle était dans la salle. Je parlerai beaucoup d'elle aujourd'hui, je crois que papa aussi. Hein. Et j'ai répondu, surtout pas avec toi.
Voilà.
Ça a mis un petit blanc dans le truc. Et puis je me suis surprise en disant pourquoi, parce que. Et puis il y avait plein de choses à refaire dans ma thèse, parce que je crois que c'est ça aussi une thèse réussie. Non pas que je me jette des fleurs, mais je pense vraiment, il faut rassurer les doctorants. Une thèse réussie, c'est que tu aboutis à une problématique auquel tu as donné des éléments de réponse, mais tu te dis, tiens, si je le refaisais, je le referais pas comme ça, il y a d'autres choses à explorer. Et c'est ça qui fait aussi derrière ta future carrière, et que tu sois chercheur ou pas, tu vas explorer des choses en fonction des points de suspension que tu as laissés et de ceux que tu as envie de creuser. Donc, il y a vraiment ce côté-là, en fait. Et d'un coup, c'est chouette de se poser des questions. Quant à la question qu'on ne m'a jamais posée et auxquelles j'aimerais répondre, je ne sais pas, puisque j'en ai répondu à certaines. Honnêtement, vrai, vrai blanc, tu vas réussir à faire taire un linguiste. Attention, belle perf!
Alors, une coche.
Ah bon?
Non, mais je vais mettre ça dans mes petites victoires. Voilà, écoute, comme quoi.
Non, je ne sais pas, parce que j'ai répondu à pas mal de choses. Pourquoi t'es pas devenu chercheur? On me l'a posé, ce n'était pas une question facile et j'y ai répondu. Pourquoi ici? Pourquoi? Non, je ne sais pas.
C'est ta réponse et on
Je ne
partira
sais
avec
pas. Tu as
celle-là.
réussi à me faire dire, je ne sais pas, bravo.
Alors, deuxième
Ah,
petit
pourquoi tu
bâton.
codes pas davantage? C'est une question que les gens n'osent pas me poser, je pense. Pourquoi tu codes ou pourquoi tu codes pas davantage? C'est-à-dire qu'il y a un rapport à. Je suis linguiste de formation.
Ouais.
Et je fais des outils d'IA et donc les gens me regardent en mode mais elle code ou elle code pas. Alors contrairement à certains articles de presse où j'ai vu certains dire non mais moi le matin au petit-déj je fais mes 3 lignes de Python. Oui bah non, moi le matin au petit-déj je lis la presse et encore après le petit déjeuner parce que sinon ça me coupe l'appétit. Mais vraiment coder est un truc qui me plaît, mais par exemple, je suis beaucoup plus lente que mon compagnon, donc quand il faut être efficace, il en fait avec moi, mais il en fait beaucoup lui tout seul sur ma demande et ou des choses où je relis, mais je code pas moi. Mais par contre, je suis capable de le relire et éventuellement de discuter avec lui de ce fond-là. Donc, tu as à la fois un de mes regrets qui serait de m'y mettre davantage, et en même temps, je pense qu'il fait une de mes forces, c'est que j'en fais pas suffisamment, mais que j'en fais toujours un peu pour garder le fil.
Ok, bon, c'est fort intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est ta réponse, donc elle est forcément excellente.
Elle est vraie, en tout cas.
C'est pour ça que je tiens à te remercier pour toute cette, je vais dire candeur, mais d'être resté toi en fait. On se connaît depuis 152 ans maintenant, je veux dire, à transformer en minutes, mais plus sérieusement, je suis très content. Puis t'es resté authentique. On arrive à une section que j'aime bien. Tu sais, dans ce type d'échange, souvent, quand on met off, Ou typiquement, quand tu défends ta thèse, puis que c'est fini, tu dis, ah oui, mais j'ai un regret parce que j'aurais voulu placer ça ou dire ça ou aborder tel sujet. Ben, j'ai une section pour ça. Si, est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose que tu voulais nous partager, une réflexion, un truc que tu voulais dire avant de partir?
Qu'est-ce que je pourrais dire? Que j'ai très envie en ce moment d'écrire davantage. Alors non, je vais pas vous pondre un roman, on se détend. Mais j'aime bien non seulement écrire mes posts, mais écrire sur tous les sujets d'IA en essayant d'expliquer au mieux. Et je sais pas si une newsletter c'est une bonne idée. Je sais pas si. Bref, je m'interroge beaucoup et à la limite, j'aimerais une réflexion commune sur le truc. Qu'est-ce que les gens ont envie de lire? Parce que certains disent, ouais, les podcasts, c'est cool quand on fait du sport, on peut les écouter. Mais est-ce que c'est pas saoulant au bout d'un moment d'avoir la même voix? Je connais mes tics de voix, enfin, je bosse autour de la voix, donc je sais pas si c'est pas pénible d'entendre les répétitions, les tics de langage, etc. Je suis pas très auditrice de podcasts, j'essaye, mais j'accroche pas à tout. Les newsletters, ça peut être long à lire. Bref, on fait comment quand on veut écrire et qu'on veut être lu pour non pas annoncer ChatGPT, la formation bullshit, pardon, du siècle, mais pour essayer de discuter sur c'est quoi vos questions et comment je peux vous aider à y répondre. Je retrouve
Merci.
la question, tu verras que je boucle un peu là.
Non, mais c'est parfait. C'est pour ça que je te dis quelque part, tu y as un peu répondu, mais adresse-la directement à, je dis à ta communauté. Tu as une communauté sur LinkedIn, tu as une communauté de professionnels avec qui tu travailles. C'est souvent le béaba, c'est revenir à l'essentiel. Tu veux une réponse? Bah, pose la question.
Oui, souvent je dis ne posez pas les questions dont vous ne voulez pas connaître les réponses. Donc a priori, si vous voulez la réponse,
On
posez-la.
reconnaît, sincèrement, on reconnaît la française. Là, on reconnaît la française.
Ah ouais?
C'est tout, ah oui, non, mais c'est typiquement cette négation dans la formulation qui est que non, non, mais garde ça simple. C'est pas, t'sais, A, B. Non, on va faire B en passant par Z parce
Oignon,
que
ouais.
c'est ça. Il a fait beau aujourd'hui. Oui, il a fait beau. Écoute, ça a été pas mal, c'est pour une journée qui quand même était un petit peu comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, ça, c'est des culturalismes qu'on vous envie et c'est pour ça qu'on vous aime. Tu sais, quand tu parlais de Gaulois, Gauloises irascibles, sincèrement, si vous n'existeriez pas, surtout pour les pays voisins, on s'ennuierait ferme.
Ça, c'est un bon régionalisme. S'ennuyer ferme, c'est plus de chez toi que chez moi.
Ah oui, c'est comme la dernière fois quand je t'expliquais le ça joue, qui des fois ressort naturellement, puis les gens te regardent, ça va
Discriminant.
bien, oui. Ou autre élément actuellement qui ressort je veux dire, des enfers, c'est actuellement on a des très grosses chaleurs comme un peu partout au Québec, puis il fait une tiaf qui ressort. Et ça, c'est du
Ah ouais.
vaudois pur. Oui, ça, c'est du vaudois pur. Mais il sort avec l'accent que j'ai d'ici. Donc, ça fait un
Ah,
peu.
génial.
C'est ouais, c'est. Je suis en train de me créer mon propre semi-langage transversal et tout. Alors, c'est comme aussi ma gradation sur quand je chiale en mot québécois là, quand je sacre, quand je dis des gros mots en bon français. C'est ça, c'est que ça commence en français, ensuite ça passe en québécois, puis quand je suis vraiment fâché, c'est en allemand. Puis là, ça change directement de
Là-haut.
dimension. C'est ça. Là, c'est le. C'est les origines qui ressortent. On va arrêter
Dans
là-dessus.
un projet, on m'a raconté que quand on écoute des pilotes, qui normalement ont un langage des pilotes aviation,
Oui.
hein, quand on écoute des pilotes qui normalement ont entre eux ou avec la tour de contrôle un langage très très normé,
Oui.
Puisque voilà, parfois pourtant quand tout va bien ou quand l'occasion s'en fait ressentir, eh bien on entend des choses dans des langues qui sont toujours de l'anglais, mais qui sont matinées de mots de langue maternelle ou qui sont plus spontanées, etc. Et puis quand il y a vraiment un problème, la langue maternelle revient immédiatement. Et donc là, on a toutes les langues du monde, puisque tous les pilotes ont des origines différentes, et tu te retrouves à plus du tout être dans de l'anglais, mais à être dans la langue maternelle du pilote, parce que quand ça va pas, on retourne à ce qui nous permet d'exprimer l'émotion au plus fort degré. Et c'est
Oui.
souvent la langue maternelle.
D'où la question que je lui ai promis de ne jamais poser à personne dans ce podcast. Alors, pain au chocolat ou chocolatine?
Excellent.
Ne réponds pas, bien sûr.
Oui,
C'est ce que
non,
je
mais vu
veux.
où je vis et vu non, mais moi, ça ça sera croissant, merci.
Voilà.
Et à la limite, je peux te demander croissant français ou italien? Parce que
Ah.
autant j'adore mes voisins italiens, autant est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi on met de la confiture dans un croissant et qu'on recouvre le tout de gelée de sucre, s'il vous
Ouais,
plaît?
mais ça, c'est le, c'est le, c'est le, c'est moi, j'ai, je dis, moi qui ai un petit peu voyagé, c'est ce que je résume. C'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. C'est une, je veux dire, c'est une fourberie, une flibusterie. Je veux dire, on parle de gens qui, c'est ça, dans les pâtisseries, rajoutent quoi? Plus de sucre, plus de gras, plus de crème. J'ai dit, il n'y a qu'en Méditerranée où tu dis, bon, bah, écoute, on a du pain, bon, on va manger des pâtes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ça? Bah, 2 tonnes de sauce. Puis qu'est-ce qui irait bien avec ça? Bah, des patates, de la viande, des tilapias, ils sont où les légumes? Les quoi?
Les trucs verts,
Et ça,
verdurés en Italie.
tu rajoutes, puis pour celles et ceux qui boivent, bah voyons donc, on va se faire 2, 3 bouteilles là-dessus. Puis après, tu te dis, mais ces gens vont à la plage. Oui, ils vont à la plage. Ils font pas 300 livres, et puis tu te dis, la vie est injuste. En fait, c'est une arnaque. Non, mais tu sais, c'est le genre de truc totalement fou. Mais en même temps, tu vis des deux bons côtés de la frontière, je te dirais.
Je me plains pas, hein, tout va bien. J'y vais pour les pâtes, je mange pas toujours le croissant. Sauf
Ah.
peut-être quand il est à la crème de pistache, parce que quand même, c'est pas si mal.
Ouais, là-dessus, c'est... Écoute, un grand merci, je dis... faut vraiment que je rentre en Europe, moi, à un moment. Je dis je rentre, faut vraiment que je fasse mes emplettes en Europe, en fait.
Oui, voilà, faut
Faut
qu'on.
pas... Ça fait longtemps que j'ai pas pris 30 kilos pendant un
Une ou deux randonnées, tu élimines, tout va
Ah bah oui, c'est bah écoute, c'est ça, tu sais, le deal à l'interne. Écoute, tu vas marcher jusqu'au petit chalet pour faire ta raclette fondue, puis tu vas
Voilà, et comme
descendre de
ça,
la montagne,
redescends en roulant, hein, parce
c'est
que.
ça, là-dessus. Puis arriver en bas, bah écoute, vu que tu as marché, puis tout, bah écoute, on va se faire un bon resto, une bonne plancetta ou un bon. Non, non. Non. Prochaine fois, je vais contacter l'office du tourisme italien. Les deux, on le vend très bien.
Oui, faisons cela.
Écoute, il n'y a point de bonne compagnie qu'il se quitte. Comme je te l'ai dit, je pourrais t'écouter pendant des heures. Tu as une vie passionnante, tu es passionnant. Et surtout, tu as cette force-là de réussir à rendre ce qui pourrait être un petit peu rébarbatif extrêmement captivant, en fait. Puis surtout, j'entends audible pour la majorité des personnes, puis que ça fasse sens. Donc j'invite vraiment tout le monde à intéressez-vous, suivez-la, n'hésitez pas à lui donner la. Excuse-moi, de la force, même si elle n'en a pas besoin, puis que
Non, mais c'est
voilà.
toujours chouette.
Comme on dit, elle monte, elle descend les rochers comme un cabri, les rochers, les montagnes comme un cabri, besoin de rien. Un grand merci pour ta sincérité, un grand merci pour ce moment-là, et c'est sûr qu'on va se reparler, que tu vas peut-être repasser dans un podcast ou dans un autre épisode. Personnellement, j'ai déjà hâte de te lire dans tes
Ouais.
prochaines publications. Et sur ce, je te laisse le mot de la fin, à toi de jouer.
À la prochaine, alors.
Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.